Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public, public masqué et plumé à l'Opéra National de Lorraine pour un troisième Masque et la Plume de la saison consacrée à la rentrée littéraire à l'occasion, vous le savez, du livre sur la place de Nancy avec ma chère Olivia de Lamberterie, duel Arnaud Bonsoir. Vivian de Transfuge. Et de regard, le respectable Michel Crépu de la Nouvelle Revue Française et Frédéric Becbédé du Figaro Magazine. On parle ce soir d'auteurs qui, pour la plupart, ont fait ou vont faire le déplacement ici. Je veux parler d'Emmanuel Carrère, d'Amélie Nothomb, de Raphaël Enthoven, de François Bégaudeau ou encore de Jean-Philippe Toussaint. Ce 42e livre sur la place, premier salon national de la rentrée littéraire, s'est ouvert le 11 septembre et va durer jusqu'au 20 septembre sous la présidence de Leïla Slimani. Au programme, une centaine de débats, de grands entretiens avec quelques 180 romancières et romanciers, dont Eri De Luca et Colum McCann, sans oublier une lecture musicale avec Olivia Ruiz et avec la présence rituelle des académiciens Goncourt, ce qui m'autorise, comme chaque année, à vous poser la même question. Quel livre aimeriez-vous voir couronné chez Drouhan le 10 novembre prochain, Olivia ?
Je vais un petit peu rompre le suspense de l'émission, mais moi, j'aimerais que ce soit Yoga d'Emmanuel Carrère, parce que je trouve que c'est le livre le plus intéressant et le plus bouleversant de la rentrée.
Arnaud ?
J'ai déjà lu plusieurs très beaux livres dans cette rentrée littéraire. Je pense que Yoga ne l'aura pas puisque il correspond à la catégorie récit, voilà, et que le Goncourt normalement couronne un roman.
Qui a valu à Philippe Lançon pour Le Lambeau de ne pas le recevoir.
Exactement.
Il est temps que ça cesse.
Et donc oui, effectivement, c'est une tradition qui devrait cesser aujourd'hui. Moi aussi, un des plus beaux livres de la rentrée que j'ai lu, c'est un récit. C'est un récit de voyage de proximité. C'est Le Pont de Beson de Jean Rollin chez POL, qui à mon avis est un des plus beaux livres de cette rentrée, où il va donc se promener le long de la Seine.
Non, mais je te demandais juste une réponse, hein, je te demandais pas un commentaire. Hein. Michel.
Alors moi j'ai lu un peu par hasard en rangeant mes affaires.
Un livre de Stevenson.
Presque. Un livre de Thibaut de Montaigu qui s'appelle La Grâce et qui est un récit d'expérience spirituelle. Comme j'en avais pas lu depuis assez longtemps.
Donc tu verrais bien le Goncourt à Montaigu.
Mais oui, pourquoi pas. Enfin, c'est très intéressant.
Je suis assez d'accord avec Michel. Mais comme il l'a dit, je suis pour Les Démons de Simon Liberati, qui est le roman le plus beau de la rentrée. Voilà, le plus beau de la rentrée.
Et puisque vous me demandez mon avis, moi je verrais bien Les Histoires de la Nuit de Laurent Mauvignier, gros roman thriller chez Minuit, que je trouve être, pour le coup, un pur roman.
Montaigu, c'est plomb, j'ai oublié de dire.
Oui, mais moi je parlais de Mauvignier. Dans le courrier de la semaine, rapidement, Thérèse Bouin a moins aimé que vous Les Comédies Françaises d'Éric Reynard chez Gallimard. Après vous avoir écouté, j'attendais une enquête palpitante sur la grande affaire d'Internet et j'ai dû patienter plus de 200 pages pour enfin y arriver. La suite est devenue hyper technique, je m'y suis perdu, dommage, j'avais aimé L'amour et les forêts. Pour Jean Soula, dire comme Reynard que la France a choisi le Minitel au détriment d'Internet est vendeur, mais c'est faux. Le choix français n'était pas si mauvais, il était bien adapté à l'époque et a permis le décollage de la téléinformatique. Louis Pouzin avait la bonne approche pour le 21e siècle, mais pas pour les années 80. Élodie Moïsa se range à vos côtés à propos du roman d'Alice Zéniter, Comme un empire dans un empire chez Flammarion. Cher masque, chère belle plume, j'adhère complètement à vos critiques. Quelle déception de constater que la volonté d'une précision scientifique, voire universitaire de ces sujets, a pris le pas sur le romanesque. Et puis enfin, à propos de Fille de Camille Laurence, Baptiste Thierry Gilbert nous écrit, vous avez dit que Fille était le premier roman à utiliser l'écriture inclusive. Non. Et je vous invite à lire Les Chants du Placard, qui vient de paraître, de Luse Volkmann aux éditions Blast. À dimanche prochain, je vous aime, merci. Et Sarah Pialeprat, elle apostrophe Frédéric Becbédé Je suis triste de vous entendre dire que depuis 49, la situation des femmes a changé. Triste aussi de vous entendre le croire. Camille Laurence ne généralise pas sans raison une situation personnelle, mais vous préférez, Frédéric Becbédé, rester dans le déni. Je ne suis pas née en 49, nous écrit-elle, mais en 75, et je suis la deuxième. À la naissance de ma sœur aînée, mon père s'est écrié « Merde, une pisseuse ». À ma naissance, inutile de vous dire qu'il n'a même pas pris la peine de se déplacer. Je regrette, cher Frédéric, que la littérature n'ait pas permis de vous ouvrir les yeux. Non, donc, voilà.
Il y a des familles où le papa est un connard, mais il ne faut pas généraliser à partir de ça.
Et on commence avec Yoga, le nouveau livre d'Emmanuel Carrère chez POL. Si le titre n'est pas mensonger, puisque Carrère pratique le yoga depuis plus de 30 ans, il est un peu trompeur. En fait, d'assez de méditation, l'auteur de L'Adversaire se pose là, puisque son livre s'ouvre en effet par le récit d'une retraite dans un centre Vipassana du Morvan, où l'écrivain envisage, assis en lotus, de réduire, je cite, « l'empire de son égo encombrant et despotique », mais c'est pour mieux plonger dans le trou noir de la dépression, diagnostiquée bipolaire de type 2. Submergé par une mélancolie suicidaire, Carrère a été hospitalisé pendant 4 mois, c'était en 2017, à Sainte-Anne, où on lui a injecté de la kétamine et où il a subi des électrochocs. Il a même supplié...
Il se plaint.
Il a même supplié qu'on l'euthanasie. Ça, c'est vraiment... C'est pas beau. Un livre hanté aussi par les attentats de Charlie Hebdo, le meurtre de son ami Bernard Maris et par la disparition accidentelle, ça c'est la fin du livre, de son éditeur Paul Otchakowski-Lawrence, sans compter avec la tragédie des migrants. Bref, une œuvre noire, comme disait Yourcenar, où il prétend vouloir devenir un meilleur être humain. Michel.
Eh bien, j'ai lu ce livre comme...
Déjà, ça c'est bien, c'est un bon...
Oui, je te remercie de le remarquer. C'est l'autre Welbeck, en fait, yoga. C'est même l'anti-sérotonine. C'est l'autre pôle. Et... je trouve ça tout à fait révélateur du moment d'époque où nous sommes, où on a d'un côté un pôle dépressif, la déréliction, et c'est Welbeck qui l'incarne très bien, et Carrère, c'est pas l'anti...
C'est pas la joie de vivre, hein, non plus.
Non, mais c'est un combat, c'est un sens de la lutte, un désir de délivrance, de connaissance. Il a pas acheté l'éponge du tout, on n'est pas du tout en face de quelqu'un qui a choisi la boxe. Je trouve ça... extrêmement, extrêmement étonné. Et puis, il y a une autre chose aussi qui me frappe beaucoup et qui me plaît à la lecture de Carrère. C'est un désir d'écrire dans le milieu des choses. Enfin, il n'y a pas d'extériorité.
Écrire dans le milieu
oui,
des choses.
Oui, son désir d'être simple, sincère, de dire les choses comme elles sont, quelle que soit la nature des choses. Je trouve que ça participe d'un désir de simplicité, dont les grands mystiques du Tao parlent souvent et qu'il a lu. Et je le retrouve là et je trouve que c'est vraiment extrêmement
intéressant. Ça pas un peu en période spirituelle pour l'instant.
Mais je suis toujours.
J'ai toujours, oui. D'ailleurs, tu es assis en lotus ici à l'Opéra de Nancy. Olivia.
Moi, j'aime beaucoup ce livre parce que je trouve que c'est le portrait d'un homme à terre. C'est une mise à nu assez vertigineuse d'un homme qui voudrait aller bien et qui sombre. Et en plus, c'est d'autant plus fascinant que c'est un homme qui fait son propre malheur. C'est-à-dire qu'il explique très bien ce que c'est que ce qu'on appelle la dépression sans objet. C'est-à-dire que c'est un homme qui a le talent de transformer son bonheur en enfer sur terre. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on connaît tous des gens qui ont ce talent-là et que je trouve qu'il... Il donne ses lettres de noblesse à la dépression, Emmanuel Carrère. Et ça, déjà, c'est très fort. Après, c'est un livre très intéressant d'un point de vue littéraire, parce que il explique très bien que pour lui, la littérature, c'est le lieu où on ne ment pas. Or, pour la première fois, Emmanuel Carrère, dans ce livre, ment. Il l'explique parce qu'il ne veut pas recommencer ce qu'il a fait avec un roman russe, où il a blessé des gens, où il a outrepassé ses droits, dit-il.
Sa famille.
Donc c'est un livre dans lequel il se bat aussi contre lui-même. Comment est-ce qu'on peut écrire en gardant le vrai, mais sans blesser son entourage, qui a déjà quand même été dévasté par sa dépression. Et je trouve que ça donne lieu à des scènes franchement romanesques, qui sont sublimes. La plus belle scène, je trouve du livre, c'est lorsqu'il est à Léros où il a été voir des réfugiés et il se met à danser sur une polonaise de Chopin. La polonaise héroïque.
C'est une scène qui se passe juste après Sainte-Anne. Il faut quand même rappeler qu'il se trouve dans un centre de migrants qui est un ancien hôpital psychiatrique.
Et dans cet endroit, avec que des gens fracassés, avec une femme fracassée, il se met à danser comme un ours sur cette polonaise. Et vous allez écouter après sur Internet, allez écouter la polonaise héroïque de Chopin, parce qu'il y a des choses absolument sublimes qui sont dites. Et là, tout d'un coup, je trouve qu'après avoir touché l'enfer... on touche du doigt le paradis.
Frédéric.
Je suis un fanatique d'Emmanuel Carrère depuis toujours et je suis extrêmement déçu par ce livre que je trouve raté et même ridicule par moments.
Quoi ?
C'est un guide de développement personnel.
Non.
Quoi ?
Avec un alibi littéraire qui est d'être chez POL.
Non.
C'est un roman sans ambition.
Non.
C'est un reportage sympathique.
Non.
C'est trois articles de journaux agrafés entre eux artificiellement. Le stage de yoga, l'hôpital Sainte-Anne et les migrants en Grèce.
Tu te rends compte de ce qu'il a vécu à Sainte-Anne ?
Tout ça est collé là-dedans. Oui, mais attendez.
Mais c'est sa vie. C'est
Olivia
sa vie.
A dit
donc
ce qui n'allait pas.
Donc si tu colles des petits bouts de ta vie, ce sera tes sûr, vacances, oui. Ton écriture.
C'est un très bon recueil d'articles, mais c'est pas pour moi un grand livre. Je suis déçu parce que j'admire Carrère et que je pense qu'il faisait beaucoup mieux quand il ne se contentait pas de parler de lui et qu'il s'intéressait aussi à, comme il le disait lui-même, d'autres vies que la mienne, c'est-à-dire celle de Jean-Claude Roman, celle d'Édouard Limonov ou celle de Jésus-Christ. Là, il y avait une force, là, il y avait une ambition, et là, je trouve que ce livre très décevant. Il y a des phrases qui sont quand même embarrassantes. La méditation, c'est pisser quand on pisse et chier quand on chie.
C'est la définition de tous les maîtres anciens depuis des millénaires.
On comprend pourquoi David Lynch n'a plus de talent depuis qu'il médite. Il dit « on est tous nus sous nos vêtements ». C'est un scoop. Il dit « ah ça, je trouve que c'est vrai, il se passe tout le temps quelque chose dans les narines ». Mais ça dépend des heures. Je suis assez d'accord. Bon, bref, on pourrait faire ce petit numéro. Ça n'a pas d'intérêt. Mais en revanche, là où je suis sincèrement déçu, c'est cette idée que... Et c'est ce que tu as dit, Olivia, en fait. Tu dis toi-même le problème. C'est que l'auteur ambigu et complexe de Limonov, par exemple, passe à côté de son livre parce qu'il ne va pas au bout de l'autobiographie. Parce qu'au fond, il ne dit pas pourquoi il est dépressif. Il refuse. Et on sait pourquoi, nous. On peut pas en parler là, peut-être. Mais il y a une affaire de menace, de procès, il y a une affaire d'autocensure dans ce livre qui fait qu'il ne dit pas, il ne va pas au bout de l'autobiographie, il ne dévoile pas le vrai problème. Et donc, on a affaire à un autobiographe qui se ment à lui-même. C'est comme les patients qui mentent à leur psychanalyste. À un moment, ça ne peut pas marcher.
Alors moi, je trouve qu'il y a une certaine et même une grande dignité, peut-être, à mentir par omission. Et je trouve aussi que les scènes à l'hôpital psychiatrique à Sainte-Anne où il subit des électrochocs, tu peux pas dire que c'est un article de journal.
Arnaud.
Je suis un petit peu de l'avis, malheureusement, de Frédéric. D'abord, je suis très heureux. Emmanuel Carrère, que je considère comme l'un des meilleurs écrivains français contemporains, n'avait rien publié depuis 6 ans. Donc vous imaginez...
Donc on comprend pourquoi maintenant.
Oui, la joie. Oui, mais la joie. Mais ça, on le savait. Moi, je savais qu'il l'avait...
Mais toi, le lecteur ne le sait pas, ça.
Oui, d'accord, mais... Nous étions au courant dans le milieu littéraire qu'il y avait des problèmes avec Emmanuel Carrère, qu'il avait été à Sainte-Anne. Moi, j'étais au courant. Donc, je savais. Donc, est-ce qu'il allait écrire un nouveau? On sait qu'il a fait un film, mais est-ce qu'il allait écrire un nouveau livre? Oui, il est là. Il est là et donc, on le lit. Après, je veux dire, encore une fois, on a affaire à quelqu'un qui écrit un français d'une limpidité, d'une simplicité, d'une efficacité la plus grande aujourd'hui. Si je devais dire à quelqu'un, un étranger qui dit quel est le meilleur écrivain qui écrit le meilleur français, je dirais Emmanuel Carrère.
Bah
il y a quelque chose dans la langue. Oui, non mais attendez. Évidemment, mais après, nous, on a une expérience de lecteur. Et cette expérience de lecteur, moi, je lis le départ. Alors, il y a ce que Emmanuel Carrère a toujours su très bien faire, parce que depuis qu'il a abandonné le roman, c'est-à-dire depuis les années 2000, depuis qu'il a abandonné le roman, il fait du journalisme littéraire sublimé. Appelons ça comme ça. Et vraiment avec une, encore une fois, une limpidité extraordinaire. Lorsqu'il fait son reportage, appelons ça comme ça aussi, sur cette séance de méditation, enfin, ce stage de méditation, c'est tout à fait parfait. Quand il parle de son prof de quatrième, que ça lui rappelle son prof de quatrième, on rigole et on pleure avec lui, on est accompagné. Et puis soudainement, à un moment, je me suis suis dit, mais il ment. Il ment, et d'ailleurs, là, effectivement, la page d'après, lui-même avoue qu'il ment. Mais soudainement, il y a comment dire, tous les livres d'Emmanuel Carrère étaient basés sur le fait qu'il disait la vérité, puisqu'il était dans une forme de journalisme. Et soudainement, on a une espèce de décollement de la rétine, c'est qu'après, quand il parle des migrants, je ne sais plus s'il dit la vérité ou s'il ment. Il y a un problème,
mais parce
il y a,
que voulez, ce livre de, n'est
de,
pas...
pacte, de pacte de lecture qui fait que soudainement, et en plus on a le sentiment qu'il donne des coups d'agrafe, c'est-à-dire qu'il y a des trous dans son récit, on ne comprend pas vraiment pourquoi il va à Sainte-Anne, on ne comprend pas pourquoi il en sort, pourquoi il va avec les migrants. Soudainement, il y a des espèces de collages comme ça, qui ne sont plus du tout structurés, il n'y a plus de structure à son livre, et qui fait que le lecteur est un peu perdu, désorienté, et
Arnaud,
déconcerté.
Il n'y a pas marqué sur le livre que c'était un reportage. Donc,
il n'y a rien marqué sur le livre.
Il n'y a absolument rien marqué. Donc, rien ne te dit que c'est un reportage. C'est peut-être un récit. C'est un récit romancé, comme beaucoup de gens en font. Et les réticences que vous avez, Frédéric et toi, viennent du fait que vous appartenez au milieu
bien
du Saint-Germain-des-Prés et que vous savez choses. Vous avez un sous-texte qui vous donne une lecture différente du livre.
Le sous-texte, c'est
donc, moi, je trouve
c'est
que.
C'est le cheminement de la lecture.
Bon,
encore
allez.
Une fois, il y a des trous dans
on
ce
ne
récit
parle pas
qu'on
que
ne comprend
de
pas.
Carrère. Donc, personnellement, je vous conseille la lecture. C'est Yoga, c'est chez POL. Pas de rentrée littéraire. On va aller un peu plus vite. Ni de livre sur la place sans Amélie Nothomb, dont le chapeau m'a semblé coiffé de la place Stanislas il y a peu de temps. Et là, elle signe avec les Aérostats chez Albin Michel son 29e roman. Elle se glisse ici dans la peau d'Ange d'Aulnoy, une étudiante belge en philologie de 19 ans, amenée à donner des cours de diction à Pi Rousser, exactement, un lycéen dyslexique de 16 ans qui se vante de n'avoir jamais ouvert un livre, qui méprise sa mère et déteste son père. Père aussi riche d'ailleurs que tyrannique, Ange va alors faire découvrir à Pi, qui a la passion des aérostats, les grands textes de la littérature, l'Iliade, le Rouge, la Métamorphose ou encore le Diable au corps, qui illustre d'ailleurs la passion naissante de l'adolescent pour sa préceptrice. Mais j'en dis pas plus, ça fait, comme d'habitude, 180 pages. Ça se lit assez vite, le caractère est assez gros. Et le dénouement est à découvrir par vous-même. Arnaud.
C'est la Amélie Nothomb que j'aime. C'est-à-dire celle qui écrit des petits contes cruels, j'ai envie de dire ça comme ça. Je n'aimais pas du tout celui de l'année dernière sur Jésus-Christ, où elle essayait de réfléchir, etc. Ça ne m'intéresse pas du tout. Là, vraiment, c'est une romancière, ou presque une novelliste. C'est de l'ordre de ce qu'on appelle la novella aux États-Unis.
C'est une fable.
Mais c'est absolument parfait. Il y a une espèce d'économie de moyens, de sobriété. C'est un petit conte sur... Vraiment, on dit tout quand on dit philologue, en fait. Hein. C'est un petit conte sur la philologie. C'est exactement ça. Qu'est-ce que c'est que la philologie par rapport à la philosophie? C'est un livre sur la lecture. C'est quelqu'un qui apprend finalement à quelqu'un qui n'a pas envie de lire, qui lui donne envie de lire. C'est très beau. Ça parle aussi de la critique littéraire de Zoïl, qui est le premier grand critique littéraire, celui qui a le premier dit que Homère c'était nul. Fallait y aller quand même à l'époque, même si c'était.
Mais Homère était Thomas de la Plume, je te rappelle. Hein.
Oui, oui. Mais il fallait oser dire Nick Homère. Il fallait y aller. Hein.
Attends, il a été pendu.
Oui, il a été pendu, ça s'est mal terminé pour lui. Hein. Oui. Et pourtant,
c'est
ça
flippant.
Se passait 7 siècles après Homère, donc il ne fallait pas faire de la critique. Donc il y a vraiment, et puis il y a une ambiance comme ça, toujours à la fois douce et cruelle, de voyeurisme, d'une espèce de sexualité sous-jacente, qui fait que vous lisez ça, et puis franchement, vous avez votre petit bonheur de lecture.
Et il vient de bouder Yoga. Frédéric.
Je suis d'accord avec Arnaud. Moi, en fait, je trouve que Amélie Nothomb, elle est la meilleure quand elle fait deux choses. C'est parler de littérature, ce qui était le sujet de son premier roman, peut-être le meilleur, Hygiène de l'assassin, où c'était un dialogue avec un écrivain insupportable. Et puis, l'autre chose, c'est parler de sa jeunesse. Et elle est là aussi...
Et puisqu'on sent quelque chose d'autobiographique,
oui,
là, sous-jacent.
Oui.
Ça se passe en Belgique.
Ça se passe à Bruxelles. Et elle est une étudiante qui n'a pas d'amis et qui donne des cours à ce jeune garçon. Et donc là, elle fait les deux. Elle parle de littérature et de sa jeunesse à la fois. Donc on a tout ce qu'on aime d'Amélie Nothomb. Elle écrit comme cette espèce d'enfant vieux. C'est assez bizarre. D'ailleurs, le garçon lui dit à un moment, vous n'avez pas 19 ans, mais 80. Et je trouve la description de Bruxelles est très bien. J'aime bien ce qu'elle dit. Une ville dont on a toujours exagéré la chaleur humaine. Et puis sur la littérature, c'est pas grand-chose, mais chaque fois, c'est assez bien visé.
Olivia.
Moi, je l'aime beaucoup aussi, ce livre. Je trouve que Amélie Nothomb, elle est très bonne quand elle est à la fois très civilisée et très cruelle. Il y a un livre de Dany Laferrière qui s'appelle « Je suis un écrivain japonais ». Et en fait, moi, je pense que Amélie Nothomb est un écrivain japonais. Elle en a vraiment toute la finesse. Je trouve que son esprit colle bien avec l'adolescence. C'est le portrait d'un adolescent et on a toujours tendance à penser que les adolescents sont des brutes dans un monde délicat. Et elle, elle en fait un délicat dans un monde de brutes. Et ça me semble beaucoup plus juste sur l'adolescence que tout ce qu'on dit. Et puis c'est vraiment un livre sur qu'est-ce que ça fait de lire, qu'est-ce que ça transforme dans la vie. C'est quand même un livre pour nous. Hein. Avec le pouvoir d'ailleurs bénéfique, mais aussi le pouvoir maléfique des livres. Et par une sorte de correspondante amusante, le livre se termine sur la polonaise héroïque de Chopin.
Oui, interprétée par Martha Argerich, comme chez Carrère.
Michel.
Alors c'est incroyable ce que le sous-jacent occupe de place dans les livres d'Amélie Nothomb. Je suis toujours frappé par ça.
Le sous-jacent occupe
oui,
de place.
Oui, on devine des eaux profondes auxquelles elle fait allusion, mais sans jamais vraiment s'en approcher. On a l'impression d'être en face de quelqu'un qui est un peu diabolique, un peu qui manie les choses avec une malignité un peu cruelle. Et il y a un côté tante Amélie qui nous sert sa confiture et il faut faire attention parce que c'est dangereux. Et j'aime beaucoup ce mélange.
Eh bien, les critiques du masque vous conseillent Les aérostats d'Amélie Nothomb chez Albin Michel. Un enlèvement de François Bégaudeau chez Vertical, l'auteur d'Histoire de la bêtise, ce pamphlet contre les bobos, dont ça pourrait être d'ailleurs la suite logique, campe ici une famille bourgeoise, les Legendre, pendant des vacances à Royan. Le père, chaussé de Nike Pegasus, pratique la course à pied, pardon le running, et comme Michel Crépu, compte ses pas avec sa montre GPS fitness, tout en textotant avec sa maîtresse, Amélie, qui n'est pas Amélie Nothomb. Donc c'est lui le narrateur, la mère est dans la com, la fille Justine, 10 ans, première de la classe, et de piano. Seul le fils de 6 ans, Louis, fait de la résistance, il veut pas apprendre à lire. Et pendant ce temps-là, d'où le titre du roman, mais on sent que ça, c'est pas le grand sujet du livre, hein. Le fils d'un entrepreneur du coin est porté disparu, d'ailleurs ce qui n'affecte pas beaucoup la petite famille de performeurs à la pointe de la mode technologique et du franglais. Alors là, soit on rit jaune, soit on sourit, soit pas du tout. Dites-moi comment vous avez... Ah, Olivia.
J'ai ri, je trouve que c'est très drôle. Alors j'ai ri peut-être parce que Bégaudeau décrit à peu près tout ce que je déteste dans le monde d'aujourd'hui. Donc ça m'a plu qu'il le brocarde. C'est un livre qui n'est pas sans rapport avec un livre que j'ai encore plus aimé, qui est Broadway de Fab Caro. Ce sont deux hommes...
Au masque... Voilà. Fab Caro, son nouveau livre au début de la saison littéraire.
Voilà, mais c'est tout à fait le même canevas. C'est un homme de 45 ans qui tout d'un coup devient complètement paranoïaque et fou. Et il raconte l'époque au travers de cette famille parfaite. Alors là, il y a tout ce que je vomis. Le running, les bracelets connectés, la vie sans gluten. Non, j'ai même pas de montre.
La mère qui fait du yoga.
La mère qui fait du yoga. Je serai la dernière fille à Paris qui ne fera pas de yoga. La bouffe sans gluten, les smoothies protéinés, l'éducation positive qui fait que maintenant vous devez parler à vos enfants comme si vous étiez un conseil de ministre. J'ai trouvé que c'était très marrant. Et il a vraiment le sens de la scène. Il y a une scène qui est vraiment très drôle, c'est que la mère demande à son mari d'aller jeter des yaourts parce que la fille s'est trompée et au Super U, elle a acheté des yaourts qui n'étaient pas bio. Et là, on se dit, ils ont qu'à les manger, ils vont pas en mourir. Pas du tout, il faut aller les jeter dans la poubelle. Et là, le malheureux mari, il est avec ses yaourts qu'il va jeter. Et là, il y a des roms à côté des poubelles. Et donc, les roms lui demandent si les yaourts sont périmés, les yaourts sont très bons. Et il va finir par parler une espèce de dialogue fou en disant « Non, mais ils sont pas bons pour nous, mais ils sont bons pour vous. » Et il faut imaginer le truc. Il y a le mec qui est en tenue de running. En tenue de running, on est grotesque. C'est vraiment une raison pour pas faire
avec
du running.
Avec sa montre GPS.
Avec sa montre. Et il y a les deux femmes roms qui ne comprennent pas pourquoi ils jettent ces yaourts qu'ils n'osent plus jeter. C'est très drôle. Après, j'ai un problème avec le livre.
Tu me diras que la mère est pas mal non plus dans le genre. Hein.
La mère est terrible. Ils sont tous grotesque, mais ce qui m'a posé problème, c'est que j'ai pas compris la fin du livre.
Mais de toute manière, comme on ne la raconte pas, c'est pas grave.
Alors François Bégaudeau, il faut m'inviter à prendre un café non protéiné.
Et pourtant, elle est magnifique.
Voire un whisky.
Magnifique. Ah,
voilà. Ah, voilà. Maintenant, on drague à l'antenne au masque et la plume.
Bravo,
Arnaud.
Oui, j'ai adoré. Alors justement, puisque...
Tu avais d'ailleurs conseillé, toi, Histoire de la bêtise, dans mon souvenir.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et j'adore les romans de François Bégodeau. Celui-là est parfait, juste parfait. D'ailleurs, ça serait un formidable prix Goncourt, pour le coup, puisque c'est un véritable roman, contrairement au Pont de Beson que je conseillais de Jean Rollin, qui est un récit. Là, c'est vraiment un roman. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre, à mon avis... moi, je l'ai lu dans l'après-midi. J'ai commencé.
Oui, c'est presque une novella aussi. Hein.
Oui, c'est 200 pages. On peut dire, je déteste le terme de pêche tordant, mais il y a un effet quasiment, une espèce d'énergie anthropique dans la lecture qui fait que, justement, les dernières pages qui sont magnifiques, où le livre décolle, on décolle avec elle parce qu'on a emmagasiné cette énergie, cette drôlerie, cet humour, cette ironie. Et puis, d'une manière, comment dire, c'est très précis chez Bégodeau. C'est ça que j'aime bien. Et il y a un côté, là, presque à la Simenon, c'est-à-dire que ça se passe à Royan. Ouais. C'est toujours très topographique.
Sauf que L'enlèvement, qui est le titre du livre, cache une intrigue qui n'est pas la plus palpitante du roman.
Ah, sauf qu'elle explique justement ces dernières pages. Ouais. C'est ça qui est très fort. C'est un livre sur ces êtres assujettis que sont les enfants. Ce sont les êtres les plus assujettis de la société. Ils doivent obéir, on a des idées pour eux, on doit les protéger. Il devrait y avoir un front de libération de l'enfance aujourd'hui dans la société française. Et c'est ce que raconte très bien Bégodeau. C'est ça, c'est pas tellement une moquerie sur... D'ailleurs, ce sont plus des bobos, ils sont plus du tout... Non, ce sont des bourgeois, mais plus du tout bohèmes, pour le coup. Ils sont,
C'est bobo, c'est la définition de bobo. Ah, oui.
Non, ils ne sont plus bohèmes. Ils sont bourgeois, mais ils n'ont rien de bohème. Ils sont à Royan, ils vivent à Royan. La visite du musée municipal de Royan, qui rappelle un petit peu la visite du musée municipal dans la nausée de Sartre, c'est magnifique. C'est vraiment un chef-d'œuvre d'ironie et de vision de ce qu'est devenu aujourd'hui la nouvelle bourgeoisie. C'est un grand livre, à mon avis, sociologique, mais aussi romanesque. C'est-à-dire que, il ne se moque pas de ces personnages.
On a compris que tu l'avais aimé. Hein. Moi, j'aurais bien donné au petit Louis qui ne veut pas apprendre à lire l'héroïne du roman d'Amélie Nothomb, pour le coup. Je suis sûr
ce petit garçon est très réussi.
Il est émouvant. Ouais. Michel ?
Moi, j'ai trouvé ça très ennuyeux. Je suis désolé, vraiment. C'est les sciences sociales, mais alors, dans toute leur splendeur. Mais Philippe Muret a fait ça il y a 10 fois mieux, il y a 20 ans.
Philippe Muret n'était pas un romancier. Hein.
Oui, mais il y avait une verve, il y avait une espèce de vigueur chez lui.
Oui, mais très mauvais.
Qui faisait qu'on avait un vrai tableau de société. Alors que là, on a un tableau de société, mais j'ai l'impression d'être à la bibliothèque municipale pour faire une enquête sur, je sais pas quoi, la pratique de lecture. Non, franchement, ça m'ennuie affreusement. Au secours.
Et tu ne fais pas de running, toi ?
Si.
mais
comme disait
Lotus. Uniquement en Lotus.
Comme disait Gide. Tout est toujours plus compliqué.
Frédéric ?
Alors, je ne suis pas aussi enthousiaste qu'Arnaud, mais je trouve que c'est quand même très marrant. Et ce qui me frappe, c'est que François Bégodeau, c'est un gauchiste, hein, il est communiste, c'est normalement... Enfin, avant, c'était les bobos, c'était plutôt Benoît Duterte ou Philippe Muret qui se moquaient d'eux. Là, on s'aperçoit que c'est devenu l'ennemi de tout le monde, le bobo. Quoi. C'est la faute à Macron, sans doute.
C'est pas le bobo. Hein. Il n'y a plus rien de bohème dans cette histoire.
Oui, mais tu as raison. Mais c'est quand même des bourgeois obsédés par le bio, par la santé, par l'éducation. Donc c'est quand même des auditeurs de France Inter, si tu veux. C'est ça. Non, mais c'est un peu ça. Il y a un côté, c'est des progressistes, quoi. Tu vois, ils sont des injonctions paradoxales. Sale à pattes, ils voudraient être généreux, mais en même temps c'est des égoïstes, etc. C'est assez marrant. Et moi, ce qui me plaît là-dedans, je serais un peu d'accord avec Crépus, ça n'avance pas. C'est un peu toujours la même chose pendant tout le livre. Il manque peut-être une intrigue un peu plus forte, mais il y a des phrases de malade. Nous avons mâché en silence. Ou bien, il ne pouvait rien nous arriver. Justine ne tomberait de ce troisième étage que si je la jetais. Tu vois, il y a tout le temps cette espèce de méchanceté qui, en fait, Bégodeau, c'est une teigne. Et on va en parler à propos de Raphaël Antoven. C'est une qualité chez un écrivain.
Un enlèvement de François Bégodeau chez Vertical. Les émotions, on prend son temps, hein, on n'est pas pressé pour Antoven. Les émotions de Jean-Philippe Toussaint, c'est chez Minuit, le deuxième volet d'un cycle entamé l'an passé avec la clé USB dont on avait d'ailleurs parlé au masque. Donc on retrouve le personnage principal, Jean de Trèze, chargé de prospective à la Commission européenne, donc tournée vers l'avenir, mais qui est là rattrapée par le passé avec la mort en décembre 2016 de son père, qui était commissaire européen, et qui a vu disparaître tous ses idéaux dans les derniers instants de sa vie, c'est-à-dire avec l'élection de Trump, le Brexit, et bien sûr la montée des populismes. Et dans ce roman, on assiste à des rencontres de prospectives dans un château anglais. C'est assez mystérieux d'ailleurs, où il y a des colloques. On découvre un passage secret au niveau moins 5 du Conseil de l'Europe. Passage secret qui va jouer un rôle d'ailleurs à la fin du roman. On revient sur l'éruption en 2010 d'un volcan islandais, cette fameuse éruption qui a bouleversé le trafic aérien. Et enfin, on sait tout après son divorce de la vie amoureuse de Jean Détresse. Et j'ai retrouvé mon exemplaire de la clé USB de l'an passé. Et la dernière phrase, c'était Détresse qui disait avoir du mal à exprimer ses émotions. Ben là, il les affiche. Frédéric.
Le danger des titres, quand vous intitulez un roman « Les émotions », on aimerait bien qu'il y en ait à l'intérieur. Et moi, je trouve pas ça émouvant, donc c'est de la publicité mensongère. Je préférais quand il disait « La salle de bain », parce qu'il y avait vraiment une salle de bain. Voyez, dans l'appareil photo, il y en avait un. Dans la clé USB, il y avait une clé USB. Là, j'ai pas.
Tu trouves pas que tout le chapitre, long chapitre consacré à la mort de son père est magnifique d'émotions?
Alors, peut-être que je n'ai pas encore compris ça, mais...
Peut-être que tu n'as pas de cœur.
Je suis peut-être sec. Non, j'ai peut-être trouvé que c'était factuel, mais que je ne ressentais rien, en fait. Je trouve que le message de ce livre, c'est de dire que les hommes politiques n'arrivent pas à contrôler leur vie privée, donc comment peut-on leur demander de contrôler la vie publique?
C'est pas un homme politique du tout.
Pas un livre.
Ah ben non. Moi j'ai eu l'impression qu'on voulait nous parler de divorce et de Brexit en même temps et de comparer les deux et j'ai pas compris et j'ai passé à côté.
On comprend l'histoire de la séparation quand même.
Il y a une chose qui m'a plu quand même, c'est cette photo de fille au sein nu, page 84. Et on a la fin.
Je comprends pourquoi on n'aime pas les mêmes livres, toi et moi.
Et où on apprend que en fait c'est grâce à la margarita qui est un de mes cocktails préférés. Et donc je pense que oui, effectivement, quand on boit des margaritas, il peut se passer des tas de choses. Mais c'est la seule chose que j'ai aimée là-dedans.
Bon, Arnaud.
Bon, moi j'avais adoré la clé USB. Donc je suis particulièrement content de voir revenir ce personnage.
Qui est le nouveau cycle de tout ça. Hein.
Il devrait y avoir trois livres.
Il y en a au moins trois ou quatre, oui.
Il est très différent de la clé USB, même si le personnage est le même, évidemment. Il y a la même idée, hein, c'est que ce sont des grands livres sur l'Europe. C'est-à-dire qu'en pleine période d'euroscepticisme, on a là quelqu'un qui parle en faveur de l'Europe. Je parle de l'Europe politique, de la construction européenne. Donc lui, il fait de la prospective. Il est prévisionniste, finalement, au sein de la Commission européenne. Donc on lui demande de prévoir le futur. Qu'est-ce qui va se passer après le Brexit, après le départ de l'Angleterre? Et il est, c'est l'ironie de Jean-Philippe Toussaint, il est incapable, lui, de prévoir ce qui va se passer dans sa vie sentimentale.
C'est exactement ce que je viens de dire et tu m'as expliqué que c'était nul ce que j'avais dit.
Non, tu n'as pas dit ça, tu dis que ça ne te touche pas, mais moi je dis que
non,
il y a une beauté.
On compare vie privée et vie politique.
De mettre en rapport justement la séparation, le Brexit,
oui, bah oui.
Et la séparation dans la vie sentimentale, l'incapacité de prévoir ce qui va, le futur de ses sentiments, de ses émotions, mais la capacité à prévoir, en contraire, le futur de l'Europe. C'est un plaidoyer, c'est assez rare, hein. Je connais qu'un seul autre romancier, c'est Aurélien Bélanger, qui fasse des plaidoyers comme ça pour l'Union européenne. Là, il y a vraiment, et donc évidemment, ça se passe à Bruxelles, on est au cœur.
Sauf le colloque du début qui est dans la campagne anglaise.
Qui se passe dans la
campagne
anglaise.
Qui d'ailleurs est passionnant quand on voit ce qui se raconte dans cette rencontre.
Ah, mais c'est magnifique, c'est magnifique.
Prospectiviste.
Oui, bien sûr.
Du monde entier.
Là aussi, il y a une espèce de drôlerie. Est-ce qu'on va, par exemple, recycler les morts? À un moment, la question est de savoir si on va recycler écologiquement les morts. C'est peut-être pas très politiquement correct comme idée. Et puis, finalement, si, ils sont d'accord pour travailler sur cette idée de prospective. Il y a vraiment des beautés. Et puis, l'émotion, effectivement, elle surgit. Alors, la clé USB se terminait sur la mort du père.
Le personnage rentrait d'Asie,
ce qui est très
Japon.
Beau, si vous voulez. Moi, je trouve,
et après, dans son père projet, était mort en son absence.
Là, en plus, on parle d'architecture, on parle de Bruxelles. L'architecture de Bruxelles est vraiment au cœur du livre. Hein. C'est comment aussi cette ville, comment elle existe. C'est comment on sent qu'il y a un projet autobiographique, mais masqué. C'est ça que j'aime beaucoup dans
ce qui est le cas de tous les livres de Toussaint.
De tous les livres de Toussaint, on comprend qu'il parle de la mort de son vrai père. On comprend qu'il parle certainement de son vrai divorce, mais il y a toujours une petite perturbation qui est celle de la fiction et ce qui fait, à mon avis, un grand, grand roman.
Olivia.
Moi, je trouve ça sublime. C'est un roman très architecturé. Pour moi, c'est comme de la haute couture. Je ne sais pas comment c'est fait, mais ça tombe absolument
c'est
parfaitement.
C'est une des passions de tout ça. Il y avait
des volumes. Il y a toujours des descriptions
du cycle. Avec des défilés de mode extraordinairement bien décrits.
Là, il parle de Margiela. À un moment, il y a une comparaison. Hein,
voilà. Magnifique avec Margiela. Et puis, il a le don de décrire les vêtements, ce qui est un truc vraiment très, très casse-gueule. Moi, je trouve que c'est un livre très émouvant. C'est un homme qui travaille sur le futur. Il explique d'ailleurs très bien pourquoi les travaux du futur ne servent jamais les politiques, puisque les politiques ne sont rivées que sur les échéances électorales. Et donc, tous les...
Ouais, c'est super émouvant, effectivement.
Non, c'est intéressant. Après... C'est un homme qui travaille sur le futur et qui est rattrapé par son passé. C'est presque un livre sur ce temps très bizarre de la grammaire qui est le futur antérieur.
Et puis il y a toute sa relation avec les femmes qui sont compliquées.
Un livre sur la perte de son père. Et ce que j'adore sur le père, c'est qu'il n'y a jamais de grandes descriptions ou de grands discours chez Philippe Toussaint. Et pour parler de son père, il se souvient juste d'une phrase qu'avait son père qui disait « Où est le coupe-ongles ?» Et il explique que dans toutes les familles, il y a des phrases totémiques et que lui-même, lorsqu'il est devenu adulte, il s'est mis à acheter des coupe-ongles comme un petit écureuil qui achèterait des noisettes. Et je trouve que moi, cette phrase « Où est passé le coupe-ongles ?», ça me broie le cœur. Et après, il y a le divorce.
Et le divorce, il y a...
Le divorce. Et il y a une scène érotique incroyable. Ah oui. Là, peut-être, si je vous dis érotique, vous allez avoir envie de
celle dans la baignoire ou pas
84.
Dans la baignoire.
Non, c'est pas celle de la page 84. Non. C'est celle, oui, bien
la
sûr,
baignoire,
de la baignoire.
Magnifique.
Avec sa femme qui est sublime.
Magnifique.
Et il y a la dernière fois où il va faire l'amour avec sa femme et où il explique qu'il n'y a plus d'âme et tout d'un coup ça devient une sorte de scène géométrique absolument fascinante.
La femme qui invente un stratagème, son ex-femme, incroyable pour ne pas se rendre aux obsèques du père.
Du père, de son beau-père. Et ça finit par comment s'embrasser éperdument.
Ah bon,
si, parce que c'est trop beau. Comme, si vous avez envie de savoir comment on s'embrasse éperdument, bah vous lisez Jean-Philippe Toussaint.
Enlever les masques.
Michel.
Moi, j'avais été enchanté par la clé USB. Je l'avais dit, j'étais sorti dans la rue en criant, lisez ça, etc. Là, c'est le même livre et ça m'a ennuyé. Je n'ai pas été touché par ce livre. Par ailleurs, très beau, très... Il y a tout ce qui fait ce que j'avais aimé dans la clé USB. C'est pour ça que je suis un peu, d'ailleurs, un peu...
Qui était plus compliqué, parce qu'il fallait être au courant
de
la blockchain, de la...
Même s'il explique ça très, très bien.
Non, j'ai pas fonctionné. Je suis désolé. Vous avez raison.
Il y a quand même une valeur politique à ce livre, parce que, en fait, lorsqu'il parle de ce volcan et de la circulation aérienne qui s'arrête, c'est le principe de précaution qui se met en œuvre, et on le voit bien, là, en ce moment, avec la pandémie. Il y a vraiment un écho.
C'est tout le problème européen. C'est des bonnes questions, des concepts merveilleux. Mais qui ne vivent pas, qui ne tremblent pas.
Au moins, c'est un écrivain belge qui parle du Brexit, alors que depuis maintenant 3 mois, il n'y a que les écrivains anglais qui lui consacrent des romans. Les émotions, c'est Jean-Philippe Toussaint, c'est chez Minuit. Et on termine avec un livre que vous souhaitiez évoquer ce soir, le premier roman à l'Observatoire de Raphaël Enthoven, Le Temps Gagné. 520 pages de ce que l'éditrice Muriel Beyer appelle la confession d'un enfant du XXe siècle dans un milieu, alors là, ultra cossu et ultra germano-pratin, dont tous les personnages sont évidemment reconnaissables. Alors on peut jouer au jeu très hypocrite de ne pas donner leur nom. Je pense que ce serait idiot. Donc Raphaël Enthoven raconte avoir été battu par son beau-père. On pourrait rien dire, sauf que depuis, il porte plainte, c'est le psychanalyste Izzy Belair, porte plainte pour diffamation, injure et atteinte à la vie privée, et qui demande même réparation du préjudice moral. Il n'épargne pas son père, Jean-Paul Enthoven, qui l'accuse de lâcheté. Mon propre père était trop occupé à regretter la vie qu'il avait pour se soucier de la mienne. Il règle méchamment, et le mot est faible, ses comptes avec son ex-femme, Justine Lévy, qu'il a quittée pour une dame qui ressemble beaucoup à Carla Bruni quand elle était en couple avec son père. Si vous me suivez pas, c'est pas grave. C'est les mœurs de ce milieu. Lequel d'ailleurs père, Jean-Paul Enthoven, publie au même moment un roman chez Grasset, ce qui plaisait à Blanche. Et quand il ne désingue pas les siens, eh bien Raphaël Enthoven retrace son parcours de philosophe normalien, médiatique. Alors il se défend beaucoup dans les entretiens d'avoir pratiqué de l'autofiction pure et dure. Mais alors qu'est-ce que c'est? Vous allez me le dire. Olivia.
Ah ben moi je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. J'aime beaucoup le journaliste Raphaël Enthoven. Je le trouve souvent courageux et je partage ses positions sur l'universalisme. Et là j'ai trouvé ce livre dégoûtant. mais vraiment dégoûtant. Je fermais les yeux en le lisant, je les ouvrais pour le masque, mais j'aurais vraiment aimé les fermer parce que c'est vraiment un livre qui vous rend voyeur de choses qui ne vous regardent pas. C'est un livre qui vous rend juge d'instruction. Où est la vérité ? Comment le savoir ? Puisque c'est la seule source de vérité, c'est ce garçon, le narrateur. Il faudrait qu'il y ait un logiciel pour compter le nombre de phrases qui commencent par « je ». C'est un livre écrit
pas
au « je ».
Pas plus que chez Emmanuel Carrère.
Ah, beaucoup plus que chez Emmanuel Carrère. Et chez Emmanuel Carrère, il y a le monde qui existe. Là, vous avez Raphaël et les méchants. C'est-à-dire tout le monde. Tu as parlé du beau-père et du père. Moi, comme je suis la seule femme sur ce plateau, je trouve que les pages sur son ex-femme sont disqualifiantes. On ne peut pas écrire d'une
toi.
Femme que vous avez épousée. Alors, il dit qu'on l'a forcée, mais enfin, on l'a forcée de quoi ? Ça veut dire quoi, ça ? On ne peut pas écrire ce qu'il écrit sur celle qu'il appelle Faustine. Mais dans tous les interviews, il dit que c'est Justine Lévy. Alors, à quoi bon l'appeler Faustine ?
Et qui répondait au livre de Justine Lévy.
Voilà, je ne comprends
pas. Donc,
Justine
Lévy avait le droit d'écrire sur leur vie privée, mais pas lui, c'est ça ?
Mais Justine Lévy n'a pas écrit de cette manière. Elle n'a pas fait une espèce de règlement de compte avec que du ressentiment. Elle n'a pas raconté comment Raphaël Enthoven faisait popo. Je suis désolée. Il y a un moment, tu te dis, il fait quoi le mec ? Il est là. Il se dit, ah, la personne a encore raconté comment une femme faisait popo. Moi, je vais le raconter. Ça va être moderne, ça va être transgressif.
Non, mais attends, mais Olivia, pas du tout. Alors, cette page-là, elle fait allusion à Belle du Seigneur.
J'ai bien compris.
Bien sûr. C'est parce que dans Belle du Seigneur, Albert Cohen dit que les bruits de chasse d'eau détruisent l'amour couple et qu'ils habitent dans un tout petit appartement et qu'il observe qu'elle essaie de masquer le bruit, comme tous les couples un peu romantiques, ils font un peu attention quand ils vont aux toilettes. Enfin, je veux dire, c'est pas scatologique. Il y a une vraie raison derrière.
C'est juste merdique. Voilà, c'est un roman merdique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est merdique. La scène de l'avortement, c'est disqualifiant. Personne n'a le droit d'écrire ça. Et personne n'a le droit d'écrire aussi platement. C'est écrit je. Il n'y a pas de rythme. Il n'y a pas de style. Et puis, il y a un truc très bizarre pour finir. C'est lui qui parle. C'est Raphaël ? Mais alors pourquoi lui c'est Raphaël et puis les autres ? Pourquoi Carla Bruni elle s'appelle Béatrice ?
Enfin écoute...
Je sais pas. Pourquoi Carla Bruni elle
Frédéric,
devient
excuse-moi,
une
je...
championne de
Olivia,
tennis ?
Olivia, d'abord on commence pas des phrases sur la littérature en disant personne n'a le droit d'eux. C'est très grave quand on fait ça. Et l'heure est grave d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont absolument exagérées dans la manière de traiter ce livre. Il y a une règle dans la critique littéraire, c'est qu'on descend jamais un premier roman. Pourquoi est-ce qu'il y a un traitement de faveur pour Raphaël Enthoven ? Je ne sais pas, mais il se fait massacrer partout,
non,
alors que c'est son premier roman.
C'est pas vrai du tout.
C'est pas un premier livre, il a écrit beaucoup de livres.
Et puis Raphaël Enthoven n'est pas un primo romancier comme les autres.
Écoute, voilà, il a un traitement de faveur. Ensuite, Adolphe de Benjamin Constant, c'est l'histoire d'une désillusion amoureuse. Il a changé les noms, mais Madame de Staël s'est reconnue, elle était Furax. Dans La recherche du temps perdu, il y a le comte Greffule qui est décrit sous le nom du duc de Guermantes. Il était Furax aussi. L'histoire littéraire n'est faite que de ça, de gens qui ont transformé leur existence et des personnages réels en personnages de roman. Si jamais Raphaël ne fait pas ça, alors on arrête d'écrire des livres sur la vie.
Mais en quoi le livre est un roman ?
Parce que toi, tu aimes Yoga où Carrère a édulcoré par respect pour ses proches la réalité. Raphaël Enthoven prend le risque très courageux, et il le paye très cher, de vraiment tout dire. Et quand c'est le Norvégien Knausgård qui fait ça, vous adorez, mais alors il faut être Norvégien pour vous plaire.
Pas du tout, je crois pas du tout que la littérature, ça soit taper sur des pieds et dire j'y ai droit.
Non, c'est dire la vie. Ce livre, c'est l'histoire d'un homme qui se libère de son père, de sa mère, de son milieu, d'une pression qu'il a un petit peu poussé à se marier avec sa meilleure amie d'enfance, et à se libérer de ce mariage aussi. Et oui, c'est très très compliqué à raconter, ça fait 500 pages, et moi je trouve que c'est un des grands livres de la rentrée.
Michel.
Moi je trouve que c'est un livre très intéressant. Je trouve que c'est effectivement un roman de l'époque, écrit par un enfant de la culture 68, l'époque où Lacan, qui est très présent dans le livre, comme une sorte de fantôme, Lacan qui aurait pu être le père de cette époque et qui ne l'a pas été, parce que précisément il était Lacan, et que les choses ne marchent pas comme ça. Mais ce livre est fait de ça. Alors, c'est fait avec beaucoup de maladresse et en même temps d'habileté, en même temps d'élégance, en même temps d'horreur, d'obscénité, etc. On peut effectivement donner un regard très négatif de ce livre, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Je pense que Proust et Balzac se seraient auraient été très intéressés par cette histoire et ils en auraient fait quelque chose. Et c'est tout, voilà, je enfin, pense que...
On aurait fait quelque chose, ça c'est sûr, parce que lui, il n'en fait rien.
Ouais. Alors Arnaud.
Merci Arnaud.
Bon, j'ai l'impression... Moi, si vous voulez, quand je lis ça, j'ai l'impression d'avoir passé 10 heures dans la salle d'attente de mon coiffeur. C'est-à-dire, ces personnages ne m'intéressent pas. Justine Lévy, Bernard-Henri Lévy, Eindhoven Père, etc. Ça ne m'intéresse pas.
C'est les verres du Rhin d'aujourd'hui.
Mais c'est ce qu'il en fait qui est intéressant.
Mais non, mais il n'en fait rien. Il n'écrit pas. Il ne sait pas, absolument pas écrire. C'est la France du maréchal Potin, quoi. C'est voilà, on en est là, quoi. Et entre le maréchal Potin et le maréchal Popotin, quoi. Et vous êtes abasourdi. Moi, j'ai dû me désinfecter. Vraiment, après ça, j'ai lu l'autobiographie philosophique de Barbara Cassin. Et soudainement, là, vous avez une espèce de chef-d'œuvre qu'aurait pu faire Raphaël Eindhoven. C'est-à-dire partir de la philosophie
roman,
pour raconter sa vie.
Un jour, il fera peut-être un livre.
Il c'est pas un perdreau de l'année, Raphaël Eindhoven. Ça va. C'est pas l'histoire du premier roman.
Les essayistes qui se lancent dans le roman, ça donne souvent beaucoup moins bien que ça.
Absolument pas un roman, par ailleurs.
Vous voulez des romans aseptisés, vous voulez des romans feel-good, des guides de développement personnel. C'est ça que vous voulez?
Non. Pas du tout. Alors, choisis ton camp, camarade. Parce que ne pas aimer Emmanuel Carrère et défendre ce roman, d'abord je trouve ça très très bizarre. Et ce que je trouve très très bizarre aussi, c'est que Raphaël Eindhoven, ce qui me choque, c'est qu'il fait tomber les masques, prétendument en tous les cas, de tout le monde.
Sans sortir la plume, forcément.
Sauf de lui.
C'est faux.
Ah bah si.
Alors non, c'est faux. Non, c'est faux.
Vous avez tout dit, je pense.
Moi, je peux te lire des phrases que j'admire dans ce livre. Il y a plein de phrases. C'est très très bien écrit. Je suis pas du tout d'accord, mais bon, on n'a pas le temps.
Eh bien, c'est le temps gagné.
Très mauvais titre.
Bah, c'est-à-dire que, vu le prix du livre, 520 pages, je suis pas sûr que ce soit du temps gagné. Mais en tout cas, c'est signé Raphaël Eindhoven et c'est aux éditions de l'Observatoire. Allez, on termine cette émission ici, à l'Opéra de Lorraine à Nancy, calmement, gentiment, poliment, en conseillant un livre, si possible, un premier roman. On commence avec Olivia.
Un jour, ce sera vide de Hugo Lindenberg.
Formidable premier roman.
Chez Christian Bourgois. Oui. Deux petits garçons sur la plage. Ils sont en train de regarder une méduse.
Plage normande.
Et le petit garçon dit, tiens, si on la remettait à l'eau. Et l'autre petit garçon lui dit, et si tu la tuais? Et à partir de là, de ce pacte d'amitié, d'un petit garçon qui donnerait tout et qui est prêt à sacrifier une méduse pour avoir un ami. Et c'est l'histoire de cet enfant qui est là avec sa grand-mère, avec une tante folle, un personnage vraiment extrêmement beau, et qui va, comme dans un film de Truffaut, tomber amoureux d'une famille. Il va tomber en amitié pour ce petit garçon et tomber en amour pour la mère de ce petit garçon. Et puis au fur et à mesure du livre, c'est comme une photo qui se développe. Vous avez les fantômes de l'histoire de la famille qui apparaissent et le drame des parents de ce petit garçon.
C'est
sublimement bien décrit. Il y a pas de règlement de compte, c'est du vrai roman.
C'est pas un roman à clé du tout.
Non. D'ailleurs, je ne sais même pas qui est Hugo Lindenberg, je ne sais pas quel âge il a, je ne sais rien de lui, mais il peut m'inviter à boire un whisky comme François Bégodeau s'il veut.
On ira ensemble. Arnaud.
Donne ton portable.
Alors,
06.
Un premier roman qui s'appelle 7 gingembre. C'est pour ça que j'ai eu envie de le lire. 7. Oui, le chiffre 7 et gingembre. Il y a l'explication dans le roman. C'est signé Christophe Perruchat. C'est aux éditions du Rouergue. C'est l'histoire d'un publicitaire, un milieu que connaît bien Frédéric. Ça se passe dans le milieu de la publicité. Un publicitaire de 45 ans, marié, deux enfants.
Qui a une montre GPS?
Qui a pas de montre GPS, mais qui est quand même qui est un branché publicitaire et qui a une obsession assez forte pour les femmes et qui va tomber pour harcèlement sexuel. On est vraiment là dans un. Mais c'est la première fois, je crois, que c'est un roman post-MeToo, comme on dit, mais du point de vue, hein, parce que c'est vraiment du point de vue d'un homme. Il y a quelque chose de très bien vu sur la manière évidemment dont la boîte de pub va se défendre, va essayer de contrôler les médias. Il y a une perception.
Il y a plusieurs affaires en cours d'ailleurs dans des agences de pub en ce moment.
Oui, c'est similaire. Comme il connaît bien, parce que Christophe Perruchat lui-même travaille dans la pub, il raconte ça et c'est tout à fait bien vu, bien écrit, passionnant.
Et c'est aux éditions du Rouergue. Mon conseil, c'est un premier roman signé Adrien Bell. Ça s'appelle 5 dans tes yeux, c'est aux éditions de l'Iconoclaste, une ode à Marseille. et, je cite Adrien Belz, et ses manières de fille des rues, et plus particulièrement ode aux vieux quartiers populaires et métissés du panier dans les années 90, bien avant sa gentrification et l'implantation des bars branchés où l'absolute vodka de Bec Bédé a remplacé le pastis de Pagnol, ce qui est quand même très dommage. Tout cela dans une langue gouailleuse, vraiment originale. 5 dans tes yeux, c'est aux éditions de l'Iconoclaste. Le conseil de Michel ?
Alors, je suis un peu décalé, je m'excuse, mais...
Un premier roman du XVIIIe siècle ?
Ça ne va pas être un premier roman. Non, j'aimerais qu'on n'oublie pas complètement le roman de Salman Rushdie, Quichotte, qui est un truc absolument incroyable, qui est une réécriture du livre de Cervantes dans l'Amérique d'après Trump. Enfin, c'est dingue, c'est un livre dingue, fou. Et j'aimerais qu'on ne l'oublie pas, parce que...
Mais on ne l'oublie pas.
Il y a dix ans, il était...
On tout pense le monde à lui beaucoup. Lui,
et là, voilà.
On ne le lit pas forcément, mais on pense à lui.
Merci infiniment.
Je vous en prie. À bientôt, Michel.
À bientôt.
Le conseil de Frédéric.
Je suis ravi de vous revoir.
Le conseil de Frédéric.
C'est pas un premier roman, mais c'est un premier récit de Pauline Baird de Pérignon, qui est la petite sœur de Julien et Édouard Baird, et qui raconte dans la collection Disparue aux éditions Stock son enquête sur son arrière-grand-père, Jules Strauss, qui était un collectionneur inouï, qui avait des centaines de tableaux de grands impressionnistes et qui a été entièrement spolié, volé par les nazis et par les Français et par les musées français et allemands. Et comment cette jeune femme enquête, un peu comme une sorte de Tintin au pays des collabos, aujourd'hui, dans les archives, dans les bibliothèques, elle va poser les questions qui dérangent à beaucoup de gens, 80 ans après, et c'est bouleversant.
Et je suis très contente d'être d'accord avec Frédéric.
Tous ces conseils, vous voyez que l'émission se termine bien. Tous ces conseils, vous les trouvez sur le site du Masque et la Plume. Franceinter.fr, merci Olivia de Lamberterie, Arnaud, Vivian, Michel Crépu et même Frédéric Bec Bédé pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam et ce soir à la technique... à l'Opéra de Lorraine, et je les remercie, il y avait Sébastien Huel, Frédéric Kérou, Thomas Robin, Charles Bouticourt et Guillaume Rialan. La réalisation, elle était signée Xavier Pistuggia. Notez bien que le prochain enregistrement du Masque et les Plumes aura lieu le jeudi 24 septembre, ce sera à 20h, ce sera au Théâtre de l'Alliance Française, 101 boulevard Raspail, dans le 6e à Paris, pour 2 émissions, l'une consacrée au livre, l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parle de films. Merci Nancy, et à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.